Nous avons dans ce récit des 10 lépreux un récit de guérison, un de plus, dirais-je, dans l'Évangile. Mais que pouvons-nous en tirer ? Est-ce simplement une leçon de politesse, c'est-à-dire qu'on voit un seul lépreux revient dire merci à Jésus, et cela peut nous enseigner que c'est très bien de dire merci et qu'il faut remercier le bon Dieu. Bon, c'est déjà pas mal, ça me semble un petit peu limité comme leçon de morale. Peut-être peut-on aller plus loin. En particulier, il y a beaucoup de choses bizarres dans ce récit. D'abord, pourquoi 10 lépreux ? C'est une question. Ensuite, pourquoi Jésus les envoie vers les prêtres du temple, alors que précisément Jésus les déteste, et réciproquement ? Ensuite, pourquoi la guérison n'est-elle pas instantanée ? À la limite, Jésus, s'il peut guérir, il avait qu'à les guérir. Pourquoi fallait-il qu'il fasse tout ce trajet, enfin, toute cette chose compliquée ? C'est curieux aller-retour. Et puis, surtout, ce qui est encore plus curieux, c'est que quand il y a l'un des 10 lépreux qui revient, Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Alors ça, c'est une question la plus compliquée. Si le lépreux qui revient est sauvé parce qu'il revient rendre grâce, qu'était la guérison des autres ? Alors eux, les autres, ne sont pas sauvés ? C'est assez compliqué à comprendre. Et je pense que ce peut être justement la clé d'entrée dans ce texte, qui consiste à essayer de nous expliquer comment on obtient le salut, c'est-à-dire comment on sauve sa vie. Alors là, il y a un petit travail d'adaptation à faire, parce que que veut dire aujourd'hui le salut ? Et que veut dire que notre vie soit sauvée ? Par-delà les images du Moyen-Âge où l'on disait qu'être sauvé, c'était aller dans le paradis de Dieu et éviter l'enfer effroyable avec les chaudrons, les diables et les fourches, je pense qu'on peut essayer de trouver une conception plus moderne de cette notion du salut. Et je dirais que le salut, simplement, c'est peut-être, pourrions-nous dire aujourd'hui, l'accomplissement de sa vie. C'est-à-dire peut-être trouver, faire en sorte que sa vie soit réussie, soit quelque chose de bon et que l'on ait envie de garder. Vous savez, quand on fait un déménagement, tout ce qui est inutile et bête, on le jette, et puis on dit, tiens, ça c'est bien, je le garde. Et c'est sauvé, je dirais, du déménagement. Eh bien, le salut, c'est peut-être ça, comment faire en sorte que dans notre vie, il y ait quelque chose de fort, de solide, qui est une valeur éternelle, pourrais-je dire. On pourrait le prendre aussi d'une façon plus égoïste en disant le salut, eh bien, c'est le bonheur. Ben oui, comment être heureux dans sa vie et se dire, là, je suis dans la paix, dans le bonheur, dans l'accomplissement de mon être. C'est ça le salut aussi. Ou encore, pour reprendre d'autres images bibliques, le salut, c'est aussi la fécondité. C'est-à-dire que notre vie soit tellement pleine et tellement réussie que même elle découle de lait et de miel et qu'elle puisse transmettre la vie et donner aux autres et dans ce monde des choses essentielles pour que ce monde puisse vivre bien, heureux et en paix. Donc autrement dit, le salut, on peut l'entendre dans notre vie sur la question de savoir comment faire en sorte que notre vie soit bonne, soit bien pour soi et pour les autres et pour la création. Alors du coup, on voit là que c'est pas si simple. Parce qu'en effet, le « ta foi t'a sauvé », c'est-à-dire ta vie a trouvé cette qualité extraordinaire de réussite, ne se trouve qu'à la fin d'un processus extrêmement compliqué. Un processus qui va impliquer beaucoup de choses très différentes. D'abord, la conscience de son mal. Les lépreux, en effet, souffraient de quelque chose et leur première qualité, c'est qu'ils en ont eu conscience et qu'ils ont appelé au secours. Après tout, c'est déjà pas mal. Ils en ont appelé à Jésus. Il y a donc une prise en main personnelle. Ensuite, il y a ce contact avec Jésus. Et puis ce chemin que Jésus leur donne de faire, c'est-à-dire la nécessité d'une participation personnelle aussi à ce chemin, qu'il y a du chemin à parcourir et qu'il faut accepter soi-même de parcourir un certain chemin. Ensuite, il y a le passage par les prêtres, ce qui représente l'Église institutionnelle, dirais-je. Donc le passage par l'Église, par la paroisse, par le temple, je ne sais quoi. Et enfin, cette initiative libre du seul lépreux qui revient et rendre grâce. Et ce chemin est compliqué. Et je ne veux pas vous décourager, mais je voudrais vous montrer que ce chemin est si difficile qu'il n'y en a qu'un sur dix qui y arrive. Un sur dix de ceux qui sont allés crier à Jésus. Et combien de lépreux n'ont même pas crié ? Donc vous voyez que ça n'est pas simple, et donc c'est une assez bonne idée pour nous d'essayer de bien réfléchir à ce chemin que nous pouvons parcourir pour arriver ou nous approcher du salut, pour essayer de le suivre. Et puis il y a autre chose, c'est finalement deux temps distincts. Il y a d'un côté la guérison, c'est-à-dire la libération, et d'un autre côté le salut, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est là où ça m'a fait penser à quelque chose dans l'histoire d'Israël, c'est la sortie d'Égypte, où on a le même processus. Il y a la libération d'Égypte, le peuple est libéré de l'esclavage, de la servitude, donc il est sorti d'Égypte par la puissance même de Dieu. Et puis il y a bien plus tard l'entrée dans la terre promise, ce qui correspond à cette question du salut dont je parlais, d'entrer dans la paix, dans la plénitude de la présence de Dieu, dans la fécondité, dans l'abondance, où on ne manque de rien, etc. Mais les deux événements sont séparés, c'est-à-dire que la sortie d'Égypte ne correspond pas à l'entrée dans la terre promise. Il y a entre les deux un passage au désert, un passage de marche dans un désert avec des aventures. Et il y a donc quelque chose qui sépare ces deux événements. Et ça peut vous sembler évident, parce que je vous le présente comme ça, mais en fait, c'est une très grande question théologique qui est posée là. Faut-il séparer la question de la libération du péché, de l'esclavage, de la culpabilité, c'est-à-dire faut-il séparer la grâce, puisque c'est ça la grâce, c'est Dieu qui se préoccupe du peuple et le libère, c'est Jésus qui guérit les lépreux, faut-il séparer la notion de la grâce de celle du salut? Luther dit non, c'est la même chose. Et pour les réformateurs, en général, il n'y a pas de séparation entre les deux. La grâce, c'est le salut. C'est-à-dire que l'homme est pécheur, et dès le moment qu'il est pardonné par Dieu, il est sauvé. C'est-à-dire qu'il y a immédiateté, si vous voulez, entre la grâce et le salut. Dès qu'on est sous la grâce, on est sauvé. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a aucune distance entre la grâce et le salut. Les deux sont ensemble. Ça fait partie d'ailleurs de ces grands piliers, nous dit-on, de la théologie des réformateurs. Sola gratia, la grâce seule. Or là, on voit que la grâce seule ne suffit pas, puisqu'il n'y en a qu'un sur dix qui sera sauvé, alors que tous les dix ont eu la grâce d'être sauvés. Et pareil pour le peuple qui est sorti d'Égypte. Tous ont eu la grâce de sortir. Qui rentrera en terre promise? Un seul, Josué. Tous les autres mourront en route. Et donc, la question est, voyez-vous, assez complexe. C'est-à-dire que moi, il me semble voir, en tout cas dans ce texte, que la grâce est certainement donnée en premier, mais qu'ensuite, il y a la nécessité à participer, c'est-à-dire à gérer cette grâce pour accéder au salut. Alors ça, je crois que c'est vrai. Parce que, tout simplement, que j'y vois une vérité humaine, si vous voulez. Mon expérience humaine m'a montré que réparer un être humain est toujours une chose compliquée et jamais immédiate. C'est-à-dire quand quelqu'un ne va pas bien, c'est jamais du jour au lendemain comme ça qu'on lui dit « voilà, Dieu t'aime et ça y est, il est guéri et tout va bien et il n'y a plus aucun problème dans sa vie ». Toute guérison de l'être humain, toute façon de remonter de quelque part quand on est descendu dans un trou, quand on est déconstruit, quand on est abîmé, toute reconstruction de l'être humain est un processus long, compliqué et difficile. Dire le contraire serait mentir, si vous voulez. Alors simplement, l'Évangile nous montre ce chemin et nous dit, on peut y arriver, parce que vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes accompagné, parce qu'il y a une grâce qui vous est donnée au départ, parce qu'il y a une force qui vous est donnée, parce que vous avez tout en main pour y arriver. Mais c'est un chemin qui est long, et c'est la grâce du départ n'est que le point de départ d'une longue démarche personnelle dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Et je crois que c'est vrai. Alors là, en plus, nous avons le détail de la démarche. Et peut-être que ça peut nous aider, parce que quand on connaît un chemin, on a plus de facilité à le suivre. Tout d'abord, de quelle maladie s'agit-il ? On nous dit qu'il s'agit de lèpre. Bon, peu importe, à l'époque, on appelait lèpre n'importe quelle maladie de peau, on ne faisait pas la différence. Mais ce qui est important, c'est que la lèpre, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole du péché, en fait. C'est même parfois, d'ailleurs, un synonyme. Lèpre et péché sont utilisés l'un pour l'autre dans l'Ancien Testament. C'est le signe de l'impureté, c'est-à-dire que la lèpre, pour l'Ancien Testament, c'est notre péché qui nous coupe de Dieu et qui nous coupe des autres, parce que le lépreux, on le met à part et on lui dit « tu n'as plus aucun contact avec personne ». Et donc la lèpre, c'est ça, c'est notre imperfection qui nous rend indignes de Dieu et qui nous fait penser que nous sommes indignes des autres et que nous n'avons pas le droit d'être à la hauteur des autres, d'être dans la société des autres, d'être dans l'amitié ou l'amour des autres. Et donc c'est ça cette lèpre, cette espèce de sentiment de culpabilité qui nous empêche de nous épanouir dans notre relation à Dieu et aux autres. Et là, ils font d'abord une bonne chose, je vous l'ai dit, c'est qu'ils crient à Jésus. Donc ils ont conscience de ce problème, et ça c'est déjà la base de tout, c'est de vouloir avancer, de se savoir imparfait. C'est la base de tout, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça et qui font mine de rien, qui font comme si ça n'était pas le cas, ou qui s'y enfoncent en se morfondant, en ne faisant rien pour changer. Là, ils ont conscience de ce problème, et c'est déjà bien. Et deuxième point positif, ils vont en appeler à Jésus. Alors là encore, je vais vous mettre à l'aise. On voit que la foi des lépreux était quand même assez minimaliste. D'abord, ils vont voir Jésus, mais se tiennent à distance. Alors bon, les commentateurs disent, c'est parce que la loi, je me fiche de la loi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils vont voir Jésus, mais restent à distance. Vous savez, comme nous, finalement, on s'approche un peu de la foi, mais finalement, on ne veut pas rentrer entièrement dedans, dans la foi, la confiance, et donner tout son cœur à Jésus. On reste un peu à distance et on parle un peu de loin. Cette espèce de distance par rapport à Dieu et au Christ, on le verra, n'est pas un obstacle. Et puis, ils l'appellent, ils lui disent « maître », c'est-à-dire qu'ils l'appellent du nom de « enseignant ». Ça aussi, c'est bien, mais c'est une confession de foi un peu minimale. Ils ne lui disent pas « fils de Dieu, Messie, Christ, Sauveur, Seigneur ». Ils disent « professeur, professeur ». C'est-à-dire qu'ils reconnaissent en Jésus quelqu'un qui a un enseignement qui est peut-être capable de leur faire du bien. Bon, ben écoutez, c'est déjà pas mal. Et je pense que déjà, lire l'Évangile et dire « je crois qu'il y a là-dedans un enseignement qui me semble positif pour moi, pour ma vie et pour l'humanité », c'est déjà le point de départ d'une authentique foi chrétienne. On n'en demande pas plus. Ça n'est pas la peine d'être capable de dire, je dirais, le point sur le cœur « Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu ». Pas besoin de ça, être chrétien, c'est pas aller si loin, c'est de loin dire à Jésus, tu as une parole d'enseignement, et je reconnais dans l'Évangile un enseignement positif pour ma vie. C'est déjà bien, et on va voir que ça va les aider. Ensuite, on nous dit qu'ils sont 10. Alors là, j'ai deux idées là-dessus. La première, c'est que 10, ce peut être le nombre des 10 commandements. Alors, on voit ici qu'eux n'ont pas les 10 commandements parce qu'ils ne respectent pas grand-chose, ils ne sont pas à l'Église, et que finalement ils remplacent la loi de Dieu par le fait d'être dit lépreux, c'est-à-dire par leur infirmité. Autrement dit, ce serait extrêmement grave de considérer que sa propre imperfection devient sa propre loi. Faire de son imperfection et faire de son péché sa propre règle, parce que faire le mal en soi, ça n'est pas grave, mais ériger le mal en système, ça c'est grave, parce que faire le mal, on le fait tous. C'est ce que dit Paul, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Si c'est ça, ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand on érige son propre mal en loi, c'est-à-dire quand on le justifie en disant c'est comme ça et c'est normal parce qu'après tout, là c'est très grave. Et donc ces lépreux étaient vraiment très gravement tombés bas, je dirais. Ce n'est pas un lépreux tout seul, isolé, qui a une petite faute comme ça. Ils sont 10, ils font masse et ils considèrent que la loi de leur groupe, c'est le péché, c'est la lèpre. Ça, c'est très embêtant. Ou alors, et c'est peut-être lié à ça, 10, vous savez que c'est aussi le nombre d'adultes minimum pour faire la synagogue, c'est-à-dire pour tenir une assemblée juive. C'est-à-dire que, effectivement, ces lépreux ont un problème et ils vont rester entre eux et faire une sorte de la secte de ceux qui ont un problème. Et Jésus va casser ça. Il va leur dire, attendez, non, non, non. Votre secte, votre religion, votre groupe d'appartenance, ce n'est pas le groupe de ceux qui ont un problème. Il y a d'autres groupes possibles. Ouvrez-vous vers un autre groupe, qui est celui de la communauté, de la synagogue, de l'église, de votre paroisse. Mais ne restez pas enfermés entre vous, entre gens qui ressassent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, et finalement vous vous morfondez et vous finissez par faire de votre problème une religion. Ben oui, mais il y a des gens comme ça, qui finalement s'attachent plus à leur tristesse qu'à l'espérance de Dieu, et qui font de leur, je dirais, de leur deuil une sorte de chose sacrée. Ça, c'est extrêmement grave. Et Jésus va briser ça. Et c'est comme ça que je comprends justement ce passage par l'Église vers lequel Jésus les envoie. Je vous l'ai dit, Jésus n'aimait pas la synagogue. Il n'aimait pas les prêtres de Jérusalem. Il disait qu'ils pervertissaient la parole de Dieu, que c'était les fils de Satan, etc. Mais néanmoins, là, ils ont quand même du bien. C'est que c'est une communauté autre, et puis c'est tout. Et donc, peu importe ce qu'ils disent, Jésus était convaincu qu'il disait que des bêtises. Mais déjà, c'est un autre groupe. Et je pense que Jésus, justement, va leur permettre de sortir de cet enfermement de ceux qui restent entre gens qui ont des problèmes, c'est-à-dire qui sortent de cette idée de secte. Et ça n'est pas un hasard. Quand on nous dit qu'un seul revient, ce n'est peut-être pas pour vous faire peur, mais c'est pour dire qu'enfin, quand il revient, il n'est plus un parmi dix, il est lui. C'est-à-dire qu'il devient une personne individuelle. Il est sorti de cette espèce de secte dans laquelle on ne distingue pas l'un ou l'autre. On a dix lépreux et c'est tous les mêmes, quoi, autrement dit, tac, 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 les mêmes. Et là, il y en a un, il est sorti du groupe et il devient lui. Et c'est ça que Jésus va lui permettre de faire. Alors Jésus, donc, je vous disais, l'envoie au temple de Jérusalem, ce qui nous montre le rôle de l'Église institutionnelle, c'est-à-dire le rôle de l'Église, de la paroisse, avec ses pasteurs, avec ses prêtres, ses synodes, ses conciles, ses papes, ses machins, tout ce que vous voulez. Et finalement, le texte nous dit que toutes ces églises institutionnelles, bien qu'elles soient toutes infiniment critiquables, ont quand même du bon. Elles ont quand même du bon. Et ça va en effet aider les lépreux d'abord parce que ça va les forcer à sortir d'eux-mêmes, je vous l'ai dit. Et ça met en mouvement. Et ce sera positif, cela dit, il y a quand même une critique que fait Jésus, c'est que vous remarquerez que les lépreux seront guéris avant même d'arriver au temple. Donc ce n'est pas ce que vont raconter les prêtres du coin qui va les guérir, ni les pratiques qu'ils vont faire, c'est le fait d'aller vers l'Église. Ça, c'est assez étonnant. L'important, c'est d'aller vers les autres. Ce n'est pas d'y parvenir, ce n'est pas d'y arriver. L'important, c'est d'aller vers les autres, c'est de se déplacer. L'important, c'est de sortir de ces cercles naturels, où on se réunit qu'avec des gens qui sont comme nous, tous pareils. Sortir de la secte familiale, sortir de la secte de ceux qui pensent de la même manière pour aller vers des gens hétérogènes. Et c'est ça, je crois, la chance d'une église de multitude comme la nôtre, c'est que justement, on n'est pas une secte. Et qu'il y a ici des tas de gens très différents. Et il n'y a pas une seule même théologie, un seul même niveau social, un seul même niveau de richesse, une seule même profession, une seule façon de croire et de prier en Dieu. Nous avons tous, et ça je le sais, des fois très différentes, des niveaux sociaux très différents. Et finalement, il y a à l'Église des tas de gens qu'on ne rencontrerait pas sinon. Et bien rien que ça, c'est absolument essentiel. Parce que ça nous fait sortir de nos sectes. Et puis, vous disais-je, peu importe ce que vont dire les prêtres. Ce qui compte, c'est le fait d'y aller. Et je dirais que c'est pareil pour le culte. Peu importe si vous allez au culte, est-ce que le pasteur a été ennuyeux? Est-ce qu'il était cultivé? Est-ce que son sermon était passionnant? Ou est-ce qu'il vous a agacé? Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le fait d'y aller. Et quand on va au culte, on est sauvé en chemin, je dirais. Après, ce qui s'y passe, ça n'a aucune importance. C'est le fait d'aller en chemin quelque part, de sortir de chez soi pour aller vers les autres et pour vouloir écouter une parole qui soit différente. Aller vers des gens différents et donc remplacer les 10 lépreux que je traîne autour de moi et qui me ressemblent par 10 personnes que je ne connais pas et pour lesquelles je suis en fait un étranger, c'est l'histoire du texte puisqu'on nous dit qu'il était samaritain. Alors, d'autre part, le fait d'aller à l'église a un autre bienfait, je crois, c'est de se soumettre à des rites extérieurs. En effet, le Lévitique avait tout prévu pour les lépreux. C'était compliqué, hein. Il y avait au moins une semaine de travail. Il fallait faire des onctions sur le nez, sur les yeux, sur les pieds, faire des prières, des trucs. Enfin, c'était absolument effrayant, des tas de rites. Mais finalement, peut-être que ces rites sont bienfaisants. Et ça, on le voit dans les services funèbres que nous célébrons au temple. Les gens arrivent complètement déboussolés, je dirais. Ils ont perdu tous leurs repères parce que celui qu'ils aimaient est mort. Et ils ont l'impression que le monde s'effondre, qu'il y a un gouffre qui s'ouvre devant eux. Et on arrive à l'église, et là, il y a un pasteur, bon ou mauvais, peu importe, qui connaissait ou qui connaissait pas le défunt, on s'en fiche, mais qui déroule une liturgie. Tac, tac, tac. Et on chante les cantiques voulus, les prières prévues à cet endroit. Et on se dit, tiens, mais finalement, c'est prévu. J'avais l'impression que c'était effroyable que celui que j'aimais meure, mais en fait, c'est prévu, il y a un déroulement, il y a quelque chose à faire, il y a une liturgie, et donc ça met de l'ordre dans le désordre. Donc tout ça nous aide, j'en suis convaincu. Et je crois que tout ça en soi est libérateur. Bon, bref, ensuite, peu importe tous ces moyens de nous libérer, admettons que nous soyons libérés, admettons que nous soyons guéris. Une fois libérés, que fait-on? Parce que c'est très agréable d'être libéré, très agréable de se dire, mais finalement, voilà, je ne suis plus coupable, j'ai le droit d'aller vers les autres, Dieu m'aime, et j'ai le droit de faire finalement à peu près tout, puisque je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. Je ne suis pas impur, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, que faire? Eh bien là, c'est délicat parce que, je vous l'ai dit, être libéré ne veut pas dire être sauvé. Et tout simplement parce que être libéré, en soi, ne donne pas de sens à sa vie. Dire à quelqu'un qu'il est pardonné ne lui dit pas ce qu'il doit faire demain. Et donc, il y a deux choses. La libération, la grâce, on nous dit, voilà, vous êtes pardonné, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'assumer votre vie, de vous présenter à Dieu. Vous avez le droit même d'être fier de vous au milieu des autres. Et de vous assumer dans la société. Vous avez le droit d'être content de vous. C'est bien, vous êtes content, oui, mais maintenant pour faire quoi? Et je crois que ce que je dis là est important parce que c'est un peu le problème de notre société moderne. Dans notre société, on est très libéré. On a l'impression qu'on a le droit de faire à peu près n'importe quoi. Nous nous sentons coupables d'à peu près rien. Et on peut tout faire, on a des mœurs très libres. Mais finalement, ça ne donne pas de sens. Et le problème, c'est que les églises contribuent à cette question. Et on nous dit, l'important de la prédication, c'est de dire, vous êtes sous la grâce, vous êtes pardonné, vous êtes aimé, vous êtes sauvé. Il n'y a plus d'enfer, on ne croit plus au jugement dernier, on ne croit plus aux menaces de quoi que ce soit. Donc on est vraiment très libéré, vraiment très libéré. Et à l'église, on n'entend aucune parole de menace qui fasse peur, qui rien. On nous libère, on nous rassure et on ressort libéré et joyeux, d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas un peu comme le peuple qui sort d'Égypte, qui est tout content dans le désert, mais qui finalement se trouve un peu démuni? Bon, je suis libre et je suis pardonné, tant mieux, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Et là, il y a un vrai risque. C'est ensuite d'errer en rond et de tourner dans le désert et d'en mourir sans jamais arriver nulle part, comme le peuple qui mourra avant d'arriver dans la terre promise. Ou alors, autre risque, c'est puisqu'on est libre, eh bien de s'inventer une autre dépendance encore plus grave que l'autre. Et c'est le peuple qui, au pied du Sinaï, est tellement libre que comme il n'a rien à faire et qu'il s'embête et qu'il n'y a pas de loi, il va se faire des veaux d'or. Et Moïse dit, attendez, mais c'est terrible. Si je vous ai libéré pour vous remettiez sous un joug, je dirais, d'une idolâtrie et d'adorer des Baals, mais c'est grotesque. Ben, en fait, nous faisons ça. C'est-à-dire, soit parce que étant libre, alors il n'y a jamais eu dans une société autant que comme la nôtre, des gens qui retrouvent des addictions, je dirais, à des produits divers ou des addictions à des sectes ou à d'autres choses, parce que justement, libéré, mais c'est très angoissant d'être libéré. Ou alors, parce que nous sommes tellement libérés de tout que finalement nous nous remettons sous un joug encore plus angoissant, qui est celui de ce qu'on nous dit sur la terreur de l'islam, de l'écologie, du réchauffement climatique, des guerres atomiques, des drones, je ne sais pas quoi, etc. Et on nous arrête finalement, nous pensions être libérés, et nous redevenons encore plus esclaves d'autre chose, parce que notre liberté, elle est vacante, et on ne sait plus quoi en faire. Et donc c'est très dangereux. Alors, on peut dire, étant libéré, on peut toujours occuper le vide de sa vie en travaillant beaucoup. Ben oui, mais le travail, d'abord aujourd'hui, on a beaucoup de chances d'être au chômage, et puis le jour où on est à la retraite, on fait quoi? On retrouve le vide de sa vie. Ou alors on peut aussi faire des enfants. Ça c'est très bien, ça occupe, mais finalement ça donne pas forcément un sens non plus, et puis on ne peut pas toujours faire des enfants. Et puis la question c'est qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Et donc vous disais-je, c'est là que se joue, je crois, le passage le plus crucial, le plus délicat. Et sur 10 lépreux, un seul en sort, et sur le peuple, un seul en sort, c'est Josué. Alors, que fait le bon lépreux? Eh bien, on nous dit qu'il revient vers Jésus, et je crois que ce n'est pas simplement pour dire qu'il faut dire merci au monsieur. C'est plus que ça, c'est deux choses, pour moi. D'abord, c'est de savoir rendre grâce. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très bien d'avoir conscience de ses problèmes, de les reconnaître et de demander de l'aide, ça c'est très bien, mais il est aussi essentiel de savoir reconnaître les chances que l'on a. Et si on ne reconnaît pas les chances que l'on a, on n'ira jamais nulle part, parce qu'on ne fait que d'être dans le vide et dans le rien. J'ai un problème, je l'enlève, j'ai plus de problème, mais je n'ai rien à ce moment-là. Je n'ai pas de richesse. La richesse, c'est de savoir reconnaître les chances que l'on a. Et je pense que tous, nous avons au moins quelque part une petite chance cachée. Personne n'a aucune chance, aucune grâce, quelque chose qu'il aurait lui que quelqu'un d'autre n'aurait pas. Et donc ça, c'est la clé, je crois, pour arriver au salut, justement. Être capable de revenir vers Jésus et de lui dire « Tiens, oui, j'ai besoin d'être libéré et aidé, c'est vrai, mais je veux reconnaître avec toi que j'ai là une grâce, parce que c'est sur cette grâce que je peux construire. » Voilà. Ça, c'est absolument fondamental. Et le problème, c'est que naturellement, on a tous tendance à penser que quand tout va bien, c'est que c'est normal. Voilà. Et donc, on ne construit rien sur le bien, parce qu'on croit que le bien n'est rien. Ça, c'est une grave erreur. La vraie qualité qui donne le salut, c'est de reconnaître que le bien que nous avons n'est pas normal du tout, mais que c'est vraiment une chance positive. C'est une grâce dont on peut faire quelque chose. Et que donc dans notre vie, il y a des creux pour lesquels on demande l'aide de Dieu, mais il y a aussi des plus. Et c'est sur ces plus que l'on peut construire. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de regarder, de dire « ça, c'est une grâce et une chance, merci Seigneur, et je vais pouvoir en faire quelque chose ». Parce que c'est peut-être l'autre point aussi. Certes, le lépreux reconnaît que c'est une vraie chance qu'il soit guéri, que c'est pas normal en fait. Et d'autre part, il va revenir vers Jésus et se prosterner devant lui, c'est-à-dire qu'il va reconnaître que finalement il est redevable de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a plus important que lui. L'autre problème, et je crois que c'est très symptomatique de notre société, c'est que chacun de nous, nous nous prenons pour Dieu. Et donc nous pensons que nous devrions vivre toujours, n'être jamais malade et avoir tout qui nous est offert de la part de tout le monde. Voilà. Eh bien c'est faux. Et une grande sagesse, c'est de se dire finalement, j'ai des grâces mais je ne suis pas Dieu. Et il y a plus grand que moi. C'est-à-dire que je dois faire un culte à plus grand que moi. Et le croyant, c'est celui qui sait qu'il n'est pas le plus grand, mais qu'il y a plus important que lui. Et de revenir vers la source même de la vie et du bien. Parce que le bien que j'ai, il ne vient pas de moi. Ce n'est pas mon mérite d'être aujourd'hui en bonne santé et de pouvoir vous parler. Je pourrais être malade ou mort. Ce n'est pas mon mérite. Et donc reconnaître que je ne dois pas à moi-même le bien de ma vie. Et de savoir se tourner vers la vraie source du bien. Parce que si on ne se tourne pas vers la source du bien, eh bien on est, je dirais, comme une voiture dans laquelle on ne met plus d'essence. Il y a un peu de bien au début, et puis une fois que c'est brûlé, il n'y a plus rien. Et donc savoir revenir à la source du bien, à la source de la grâce, à la source de la libération, à la source de la vie, du bonheur et de la paix. Ça, c'est la chose absolument essentielle, et c'est ce que va faire le lépreux. Parce que là, il a été guéri. Très bien. Le bien d'hier, ok, je n'ai pas besoin de dire merci si vous voulez. Vous n'êtes pas poli, dites pas merci à Dieu. Je m'en fiche. Mais le bien de demain, il viendra d'où? Ça, c'est la question. Eh bien donc, savoir reconnaître d'où est venu le bien de ma vie, c'est se mettre dans la position d'être capable de continuer à puiser à la source même de la vie et du bien. C'est le sens même de cette demande du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai du pain, tant mieux, mais celui de demain, eh bien oui, j'en ai besoin. Voilà. Et j'ai besoin de Dieu pour cela. Et ça, nous le trouverons si nous savons retourner vers la source de la vie comme l'a fait le lépreux. Et puis, on nous dit que le lépreux se prosterne devant Jésus. C'est reconnaître qu'il est plus grand que lui, mais c'est aussi le signe dans l'Ancien Testament de dire « Je suis ton serviteur et j'attends de ta part une parole de mission et de mise en route. » C'est-à-dire qu'il comprend que Jésus peut libérer, certes, mais qu'il peut aussi le mettre en route, le mettre en chemin et lui donner une mission et quelque chose à faire. Et ça, c'est absolument essentiel, de justement se dire tout à coup qu'on n'est plus simplement au service de soi-même, mais au service d'une puissance autre qui nous dépasse. Et je crois que là, nous avons tous les éléments, je dirais, du salut. Alors certes, il faut au départ être libéré de quelque chose. Ça, nous n'arrêtons pas de le dire dans nos églises. Et je vous le rappelle, et tant que vous n'aurez pas accepté cette parole de libération qui nous dit que vous êtes guéri, vous êtes sauvé, vous êtes purifié, vous êtes pardonné, le reste sera toujours compliqué. Mais dès le moment qu'on a reçu cette guérison, d'arriver à la transformer dans un salut pour soi et pour les autres, c'est une chose essentielle. Alors Jésus va lui dire « Relève-toi ». C'est-à-dire, certes, adore Dieu, d'accord, mais allez, debout. Debout. C'est-à-dire que, puisque maintenant les relations sont bien en place, entre toi, Dieu, les autres et tout ça, tu peux te redresser, tu peux être fier de toi, et je ne te demande pas de rester à quatre pattes à te prosterner sans arrêt devant Dieu, mais c'est bon, tu t'es prosterné, maintenant debout, et Jésus lui dit « va ». C'est-à-dire, marche, en chemin et en route. Et c'est alors que le lépreux, non seulement guéri, mais en plus sauvé, pourra marcher sur un chemin de vie, de joie, d'amour, d'éternité et de salut. Amen.